C'est cela, oui, 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 oui.
Laissez-moi m'attraper, Thérèse. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël.
Allô?
Oui, joyeux Noël, monsieur.
Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël.
C'est cela, oui.
Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois.
C'est cela, oui.
Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme.
Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe la collaboratrice.
Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse,
Ça ne nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse plus.
Je parle pas en pénère, passe-moi la bouille.
Ça ne nous intéresse pas. Arrêtez ça, c'est un vice.
Voilà, donc ça a bien saturé pour les oreilles de tout le monde. Donc bienvenue sur Full Boxon pour cette première émission de l'année 2014. Donc on est jeudi 2, donc il y a beaucoup de donks en ce moment. Après la gueule de bois, voici la gueule de métal qui arrive. Donc je suis toujours avec l'équipe, salut les gars.
Salut
Mathieu, salut. Ex, Xav, comment ça va?
Ça va, très bien,
ouais. Super.
Bien passé, c'est fête?
Bah écoute, entre la dinde de morin et les champagnes, ça va, on se porte bien.
Et la cocaïne? Non, toujours pas. Ok, donc c'est un sujet tabou, on préfère ne pas en parler. Bon alors je vais parler franchement. Pour cette émission, on n'a pas beaucoup travaillé, donc on va se faire une émission un peu sympathique, un peu facile. On va faire aussi en même temps, on va faire un peu d'autoprod, d'autopromo, je veux dire. Donc on va vous présenter un album que vous avez sûrement déjà écouté parce que vous l'avez acheté, je pense. Et c'est l'album des Junk, le dernier album des Junk qu'on avait chroniqué en juin dernier avec Mathieu, avant qu'il n'intègre l'émission d'ailleurs. Ben je sais pas, peut-être que tu peux nous en parler, nous le présenter.
Alors l'album, c'est le quatrième, qui s'appelle Free Willing Free Will, qu'on a sorti donc en novembre 2012, l'an dernier. Voilà, ça fait un an qu'on en fait la promo et qu'on a tourné, au sens où on a fait des concerts pour le promouvoir.
Ouais.
Voilà, donc c'est un album qu'on a enregistré avec Stéphane Burier de Loudblast.
D'accord.
Voilà, bonjour Stéphane si tu nous écoutes. Et ça a été un projet qui a mis un bon 2 ans et demi pour
aboutir. Ouais. Parle-nous un peu de la genèse de l'album.
Voilà,
ouais.
On avait essayé de faire quelque chose d'assez rapide cette fois-ci, donc de louer un bon studio avec le producteur, tout ce qui va bien et tout, mais on a eu des soucis en fait entre la prise de son et le mixage, et il y a eu 1 an de délai.
Ok.
Voilà, et l'idée est partie, 2010, ouais. Le temps d'écrire les morceaux, de booker le studio, tout ça.
Ok, et donc voilà. Enregistrement avec Burier.
Ouais, c'est ça.
Ça s'est passé quoi?
Ah, c'était chouette, hein. On a fait ça en 5 jours.
C'est un pro, lui, tu veux...
Très pro, ouais.
Finalement, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte d'enregistrer avec des mecs comme ça qui ont de la bouteille, qui sont des stars un peu? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Un regard extérieur. Ouais. Déjà, c'est-à-dire quelqu'un, tu envoies les morceaux, donc déjà il voit s'il a envie de bosser avec toi ou pas.
Bon, mm-hmm. c'était déjà un échange.
Ouais, c'était déjà un échange. Il y avait déjà eu un échange.
Si j'ai bien compris, vous êtes resté en, enfin il y a un contact.
Oui, on est toujours en contact.
Une rencontre
humaine aussi.
C'est pas que. Okay.
Voilà donc aussi.
Ouais, c'est une maladie qui, dès qu'on est dans ce studio, on a des voilà donc qui arrivent
dans tous les sens. Et donc Stéphane, je l'ai contacté bêtement par Facebook. On a beau dire ce qu'on veut, ça sert quand même à ça aussi.
Ouais.
C'est voilà. Un très bon outil Facebook.
Ah bah oui, pour la
savoir
promo,
juste
s'en servir. Oui, c'est voilà. Ça. Après contact téléphonique, donc on a monté tout le plan aussi parce qu'il y avait tous les détails, le planning, les finances, tout ça à voir.
Donc en fait là, t'es en train de nous dire que t'as envoyé une maquette, un truc comme ça, et c'est lui qui a décidé de bosser avec vous?
Alors même pas, c'est juste que déjà je l'ai contacté. Après il m'a dit envoie-moi du son.
Ouais.
Et après il écoute et il voit si dans les budgets qui sont possibles, il te fait des propositions.
Ok.
Voilà.
Ouais, donc ben, quand même plus ou moins, c'est quand même un choix qu'il a fait parmi tout ce qu'il avait de vous faire vous plutôt qu'un autre quoi.
Oh, je pense. Enfin, il choisit quand même un minimum.
Ouais, voilà.
Ouais, parce que bon, c'est vrai que maintenant c'est un producteur qui est.
Il passe même à la télé.
Ouais, voilà, il a son émission de télé maintenant. Hein.
De toute façon, depuis qu'il a enregistré avec vous, ça a relancé sa carrière, quoi. Enfin, c'est ça.
Et d'ailleurs, non,
c'est un peu ça.
Derrière, la dernière émission de Une Dose de Métal, là, c'était avec Mudweiser. C'était vraiment chouette là sur. Ben, c'était hier soir.
Ouais, je sais bien.
Non, c'était le jeudi, je sais plus quand, en décembre là, c'était pas mal.
Non, mais après la nana qui s'occupe de la prog pour passer dans l'émission, dont j'ai le contact et avec qui j'avais un échange de mail justement à ce sujet-là, ouais. Et est atteinte de la maladie de tous les programmateurs, c'est-à-dire que ça fait un mois et demi qu'elle répond à plus aucun de mes mails.
Ah merde.
6 ou 7.
Merde.
Non, mais c'est vraiment la maladie du programmateur. Ça.
Alors ouais, en parlant de maladie du programmateur, excusez-moi, je viens d'avoir, il y a aussi la maladie du casque, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de retour dans mon casque.
Écoute, moi je te propose quelque chose, c'est que tu enlèves le casque, on s'entend très bien sans le
casque. D'accord, super. Ouais, mais je sais pas, j'aime bien le casque, ça faisait un peu
pro, hein.
Voilà, ça mieux.
Ah, alors, et donc pour en finir là-dessus, alors ce que ça amène, ben, ça amène déjà un regard extérieur. Ce que ça amène aussi, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de casquettes hein, ce groupe, producteur, chauffeur à une époque.
Rodi, livreur, chanteur à l'occasion.
Chanteur à l'occasion. Je fais un peu de musique à l'occasion dans ce groupe des fois. Ouais, mais c'est, et curieusement, ça reste quand même la partie la plus faible de toutes les activités au sein des
Jeunes Gardiens. Ouais, c'est 15%.
Quoi. La créativité, ouais, c'est à peu près ça. Et c'est surtout que quand tu rentres en studio avec un gars comme Stéphane, tu lui laisses les clés de la maison.
Ouais.
Tu arrives et tu lui dis, ben voilà, donc moi je suis là pour faire un album avec toi, et puis c'est toi qui es aux commandes.
Ouais.
Et aucun problème, il drive. Il drive, il sait faire. Les prises, il sait ce qu'il veut au niveau de la prise. Bon, nous, il nous avait proposé de faire beaucoup de choses en live parce qu'il avait capté le délire du groupe. Ouais.
Vous êtes surtout un groupe de live, faut le dire aussi, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il m'avait dit qu'il n'aurait pas proposé ça à tout le monde parce qu'on a fait l'album en fait en 5 jours.
Ouais.
Avec 3 jours et demi de prise de son, 1 jour et demi de. D'édition, ouais. En fait, c'est-à-dire de recalage divers et variés. Ça, c'est le standard actuel maintenant.
Ouais.
Que tu vois, donc, même dans les junk, on recale.
Oui, on recalait déjà avant.
Ouais.
Mais là, pour le coup, c'est vraiment systématique et c'est un niveau qui t'amène vraiment au-delà, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, bon, tu lui fournis le matériau brut le meilleur possible. Ça, c'est déjà, ça, on fait de la musique, hein.
C'est bon, ça.
Voilà, toujours. Mais lui, il prend ça et il gomme les imperfections et il te fait arriver vraiment un standard vraiment très très bien, quoi.
Ouais. Est-ce que tous les morceaux là, de l'album là, des junk là, de cet album,
ouais.
Est-ce que par rapport à la comment dire, la composition initiale, ils ont changé?
Alors il a pas vraiment mis le nez dans les arrangements, c'est surtout sur la forme finale. Et puis il m'a fait enlever certaines choses, il en a rajouté certaines autres que je lui ai proposées.
Ouais.
Voilà, il y avait un échange dans le studio.
Quasiment un rôle, enfin, pas de producteur, mais un peu.
C'est producteur à l'américaine. Ouais. Sachant qu'il n'est pas rentré dans les arrangements, c'est-à-dire il n'y a pas.
Il n'a pas dénaturé votre son, quoi.
Non, sur les phases de pré-prod, il n'est pas rentré sur la compo.
Ok.
Après, effectivement, il y a des choses que j'avais proposées qui lui plaisaient pas, donc on les a enlevées. Et à contrario, il y a certaines choses. À des moments, il me manquait certaines choses dans la compo qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment travailler en amont. Qu'on a rajouté en studio. Là, c'est vrai qu'on était rentré en studio, l'album était écrit à 80%, quoi.
Okay.
Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire, surtout au niveau du chant. Bon, ce qui fait que c'est vraiment le quatrième album, c'est vraiment un album de transition pour moi. Et d'une certaine façon, c'est un peu le premier album
de la nouvelle ère, de
nouveau cycle.
Ouais, ok.
Voilà, on a fait de l'autoprod pendant des années. On a fait un peu le tour.
Donc là, t'es en train de nous dire qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à essayer de travailler de cette façon-là, c'est-à-dire avoir un producteur extérieur.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est la meilleure solution maintenant pour.
Ouais, puis c'est à peu près la suite logique des événements, quoi.
Oui,
après de l'autoprod pendant quoi, 10-15 ans.
Ouais, c'est ça, une quinzaine d'années.
Maintenant, tu passes à un truc un peu plus pro, on va dire, quoi.
Bah, c'est ça, c'est vraiment le côté professionnel. Tu embauches quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a une patte aussi, parce qu'il a son son. Ça s'entend sur l'album, c'est quelqu'un qui aime le gros son, c'est quelqu'un qui vient aussi du death metal.
Qui passe au Hellfest cette année, d'ailleurs.
Qui passe au Hellfest encore pour la xème fois, j'imagine.
Non,
c'était la première fois.
C'est la deuxième fois, je crois, qu'il passe.
D'accord, c'est
tout.
Si, ils étaient passés en 2007 ou 2006.
D'accord. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on avait, c'est quelqu'un qui a aussi une culture rock et hard rock et metal qui est très importante, donc on pouvait vraiment discuter avec lui.
Ouais.
En studio, c'était très drôle avec David, le batteur, ils étaient en train de parler de vieux groupes de death obscur du début des années 90. C'était vraiment marrant. Ouais.
Des Suédois, ils parlent
Non, c'est américain, tu vois, tous ces groupes, Autopsy, Death, Obituary et compagnie, des trucs que je connaissais même pas. Parce que moi, c'est vrai que j'étais plus fan de speed metal allemand, moi, à l'époque, Creator et tout ça.
T'as écouté un peu les autres productions de Buriez
Ouais, j'avais fait un tour, j'avais rencontré un gars de Lycosia qui m'avait filé deux albums, dont un qui était produit par Steph. Et après, ça reste toujours du gros son en général. Et plus ou moins live. Nous, ben, je l'ai encore eu au téléphone il y a deux jours, parce qu'on a discuté en fait pour l'album suivant. On va sûrement faire un album cette année.
Bonne nouvelle pour super. Voilà. Pour les éditeurs de Gascogne FM, le Junk.
En exclusivité mondiale.
C'est ça, un nouvel album.
Voilà. Et
donc la sortie pour dans 2018.
C'est 2019. Ça, 2018. Ouais. Non, le temps qui est 3000 péripéties. Pour ça, je m'y prends assez tôt.
T'as bien raison.
Et il me disait, oui, ben c'est sûr que il aimait bien le côté live et le côté un peu crado du son, enfin qui correspond de toute façon au style qu'on fait. On peut pas vraiment avoir une production super clinique. Mais c'est un peu dans l'esprit de ce qui se faisait dans les 70s où tu fais beaucoup de choses live, t'as vraiment le son de la pièce.
Moi perso au Burier, donc j'avais vu son travail de pas en tant que chanteur de Loudblast mais en tant que producteur sur un groupe Kickback, le groupe parisien de Negative Hardcore.
Ouais.
qui d'ailleurs a splitté. Donc d'ailleurs, je spoil un peu pour la prochaine émission. Moi, je vais sûrement faire un review sur Kickback. Voilà. Donc ils avaient fait un album après deux ou trois EP qui s'appelait Cornered. Et ensuite, ils sont allés chez Burier faire leur album qui, à mon avis, pour moi, est leur meilleur album. Qui s'appelle Forever War. T'écoutes les deux, l'un à la suite de l'autre, tu vois une différence de son, mais qui est monumentale, vraiment, vraiment. Et je pèse mes mots. D'ailleurs, je vous le ferai écouter sur la prochaine émission. C'est un truc de fou, quoi.
Ben c'est vrai que moi j'ai vraiment senti la différence parce que aussi le studio était bien, mais proposait plusieurs options, Stéphane, c'est-à-dire de faire les prises de son moi-même et qu'il faisait juste le mix, qui était beaucoup moins cher.
Ouais.
Et moi ça m'intéressait pas. Moi,
Toi, tu voulais passer à un autre niveau.
Moi je voulais vraiment être avec lui dans un bon studio et travailler comme normalement on doit travailler quand tu veux faire des choses convenables. Après bon, l'autoprod c'est super, on en a fait pendant des années. Moi j'avais fait un peu le tour.
Ouais.
On a bossé avec plein de gens qui avaient vraiment des super compétences, mais moi j'arrivais pas à trouver. Il me manquait un peu quelque chose.
D'accord.
Je voulais vraiment passer à une étape suivante.
Okay.
Ça ne remet absolument pas en cause le travail des autres personnes.
Ouais, non, mais tout à fait. C'est juste un niveau supérieur.
Mais c'était différent parce que c'était vraiment, on savait vraiment où on allait, quoi.
Okay.
Surtout, on avait quelqu'un à la barre qui savait que le temps était compté parce que là, tu rentres en studio, c'est plus de 300 euros la journée, donc tu fais pas le malin, quoi.
C'est ça. Tu vas pas perdre ton temps à fumer des clopes et raconter des blagues sur des rugbymen qui vont faire du moucha riding.
Ah, c'est ça. Non, mais surtout, c'est ça qui est bon avec ça parce que Steph, c'est un mec qui autant peut être très festif dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de très sympa.
Il a l'air, ouais, il a l'air.
Avec qui t'as vraiment un rapport très, 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 très cool, quoi. Autant au boulot, il est impitoyable.
Okay.
Moi, j'aimais bien. Okay. Moi, j'aimais bien ça, être avec un mec, c'est que quand la prise est pas bonne, le mec, il te regarde, il fronce le sourcil, il te dit non, tu m'en fais une autre. Moi, ouais. J'aime bien.
Ok, c'est son boulot.
Ouais, c'est son taf. Et
bon,
il fait bien.
Moi, je te propose de parler un peu maintenant de l'objet. L'objet, l'album.
Ah, ouais. L'objet.
Parce que là, je vais faire mon ex un peu. Il y a quand même une. Au niveau visuel, il y a un truc sympa.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené le vinyle pour qu'on l'ait un peu sous les yeux.
Alors, Charles, fais la présentation.
Ouais, non, mais la présentation, tu vas la faire parce que tu es sûrement plus calé que moi pour la faire. Moi, c'est juste que le vinyle est, je veux dire que le vinyle est un très bel objet.
C'est un super
objet. Vous restez toujours, donc tu vas nous dire sûrement pourquoi aussi. Il y a peut-être ça coûte sûrement très cher de faire un objet comme ça.
Ouais,
pourquoi tu préfères faire ça que de faire un CD, que de faire du téléchargement, du numérique, déjà bon.
Concrètement, le numérique, on vend très très peu d'albums en numérique. J'ai beau faire tout ce que je peux, à faire de la pub à droite à gauche, on en vend quasiment pas. Donc,
tu veux dire, par rapport à votre public qui est plus,
ouais,
qui est plus sur l'objet ou qui est un public qui aime les vinyles,
il semblerait
qui,
que le public qui a grandi avec ça, que ou... le public qu'on a est plus sur il se partage entre CD et CD du vinyle.
Il faut l'objet et le t-shirt. Voilà. Enfin, ça c'est moi
c'est
je trouve que c'est un truc qui revient souvent dans les fans,
donc
fans de rock, de métal, tout ça, c'est qu'on est on je me mets dedans, on est vachement tactile, on a besoin de toucher les choses, les t-shirts, les CD, les vinyles, les conneries qu'on ramène des concerts.
C'est vrai que de toute façon quand t'as un vinyle, le dessin quand t'as vraiment un design particulier, le dessin il ressort 50 fois plus en vinyle qu'en CD ou en numérique. Voilà, donc tout ça pour dire, enfin pour rebondir là-dessus, quoi. C'est-à-dire que
donc
c'est vrai
présente-le un peu. Donc c'est du noir et blanc.
Ouais, mais je vais laisser Mathieu le faire. Moi, c'est juste, je voulais qu'on en parle pour diverses raisons, parce que j'apprécie aussi beaucoup la personne qui l'a fait.
Ouais.
Et que finalement, t'as l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait deux, je crois, sur deux albums où vous travaillez ensemble.
Albums,
Et finalement, ouais,
et deux super visuels.
C'est deux super visuels et même là, on a l'impression que vous avez trouvé, je sais pas, qu'il y a quelque chose.
Il y a une harmonie, ouais.
Il y a une harmonie, voilà. Ouais.
C'est vrai qu'on reconnaît bien quand même la patte junk là sur les deux vinyles, enfin sur les deux pochettes d'albums, quoi.
Ouais.
On sait de suite que c'est eux. Et voilà,
alors,
quoi.
Comme je sais que chez Mathieu chez les junk et chez les personnes avec qui vous travaillez, il y a pas de hasard.
Je pense que dans
la pochette, il y a pas de hasard. Donc voilà, peut-être que ce qui est intéressant justement là, c'est d'approfondir ça et que tu nous expliques un peu. Ben je sais pas, moi je suis néophyte, je vois la pochette, donc le titre Free Will, des espèces de, je sais pas comment t'expliques ça. Enfin, qu'est-ce que
alors
c'est,
là quoi, ça va être ça va être ça va être un peu long à décrire, c'est-à-dire
après, on va essayer de faire ça, mais c'est un peu efficace. Mais
quand j'ai décidé qu'on ferait un album, parce qu'en général c'est moi qui
lance la machine,
qui lance la machine. Ouais. Y avait la question du visuel. Bon, c'est vrai que pour certaines raisons, à un moment donné, j'avais envisagé de ne pas retravailler donc avec Marie-Élise qui avait réalisé la pochette du précédent. Et
du fuck album, donc.
Du fuck album, ouais.
En couleur, avec un personnage féminin, alors, super stylisé.
Le grand drame de cet album, c'est que c'est là, c'est pour ça que cette fois-ci j'ai fait du vinyle et j'ai pas fait de CD. C'est la dernière fois que je l'ai sorti en CD. On a vendu plus de t-shirts finalement que de CD, je pense. Mis tout bout à bout. Et peut-être même, enfin c'est l'impression que j'en ai, c'est du moins que ça partait parce que des CD.
Déjà, si t'as l'impression, même si c'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a un rapport qui est un peu trop inégal.
Il y avait un rapport inégal parce que c'était un visuel qui, le fuck album a été conçu pour faire du vinyle.
Ouais.
C'est-à-dire tout le projet était vinyle et même on a quelques modifications si jamais il sort, on a quelques modifs pour vraiment faire un super truc avec des disques bleus.
Ouais, d'ailleurs, je crois que tu avais parlé d'une ressortie de cet album.
Ben, le problème c'est que il faut trouver les 1800 euros qu'il nous faut quoi pour faire.
On fait un appel aux dons, ça s'appelle le Junkathon. Si vous avez quelques euros à lâcher pour faire une ressortie vinyle du Fuck Album avec un visuel magnifique et que vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas, contactez-nous, on fera suivre à qui de droit.
On le fera peut-être si ça c'est toujours pareil. Bon, voilà, on verra bien comment la suite se passera.
Ouais.
Donc j'ai demandé à pas mal de gens de faire des propositions. Alors soit on m'a rien renvoyé, soit c'était moche.
D'accord. Faut le dire. Claire, carrément. Donc ceux qui se reconnaissent, c'était moche.
Non, c'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible. C'était super cliché. C'était pas bien. Bon, bref. Et donc un jour, je croise Marie-Élise plus ou moins par hasard. J'ai dit, bah, écoute, tant qu'on se voit, ça pourrait être sympa que si t'as des idées pour le prochain visuel de l'album des Junk. Elle me dit, de toute façon, j'aurais pas compris si tu me l'avais pas demandé. Je dis, ah, bon, ok, d'accord.
J'avais l'intention, de toute façon. Voilà, j'attendais juste de te croiser.
D'ailleurs, c'est bien qu'on se croise. Regarde.
Voilà. Donc, en fait, elle a commencé à faire assez rapidement un premier essai qui s'est retrouvé finalement à l'intérieur du disque.
D'accord.
C'est la pochette du vinyle orange, la pochette souple.
Oui, parce que c'est dedans, c'est orange.
Voilà, c'est dedans, c'est orange.
Noir et blanc à l'extérieur et orange dedans.
C'est assez ésotérique, en fait. C'est-à-dire que la face extérieure des choses est noir et blanc. Et à l'intérieur, c'est très coloré.
Et une galette magnifique. Je laisse la surprise.
Je crois que tu peux le dire, mais
toute blanche. Toute blanche.
C'est du vinyle opaque à 180 grammes.
Exactement.
Ouais. Avec une gravure sur laque.
L'objet tue. Non, mais honnêtement, l'objet tue.
L'objet en lui-même, que ce soit la pochette et le vinyle, c'est vraiment un objet sympa à avoir. Moi, je sais que c'est toi qui me l'a offert, je crois, ou c'est toi, je sais plus. Il y a un super. Quand tu l'as, t'es content de l'avoir dans les mains, quoi. Tu te dis waouh.
Tu veux dire que Mathieu t'offre ces vinyles à toi.
Ben pour me faire écouter. Mathieu, il m'avait déjà même fait écouter la version numérique qui n'était pas encore finalisée.
Peut-être toi, tous mes potes l'achètent.
Ben je sais. Moi, je suis pas ton pote, je suis ton collègue. C'est pas pareil.
Et ce qui est assez intéressant, donc, c'est que la pochette intérieure, assez rapidement, elle a fait quelque chose qui était très construit, qui est extrêmement symbolique, dont j'ai pas toutes les clés d'ailleurs, parce que j'ai tout est parti d'un dessin qu'elle avait réalisé à l'encre de Chine, qui était très très symbolique, un peu dans l'esprit tatouage old school, avec des ailes, une main avec un œil, une clé, etc.
C'est vrai, oui, tout à fait.
Ouais, des sketchs, tout à fait. Des vieux sketchs de tatouage.
Ouais, très 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 beau et très 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 ésotérique. Et j'avais dit, moi, je veux celui-là. Elle m'a dit, celui-là, je te le donnerai jamais.
D'accord.
Parce que celui-là est à moi et c'est trop.
Trop de choses perso.
Trop de choses personnelles, donc tu l'auras jamais. Elle m'a dit, par contre, je peux t'en faire un autre. Donc elle m'a fait la pochette intérieure où il y a énormément de clés sur le tarot, l'alchimie.
Dedans, il y a une grosse étoile, quoi. Je voulais juste te demander la signification de l'étoile et donc.
Eh ben, l'étoile, c'est toujours pareil. C'est. Tu as la pointe vers le haut, la pointe vers le bas. Bon, tu as l'esprit, la matière. La pointe vers le haut, c'est la dominance de l'esprit sur la matière. L'autre, c'est l'inverse. Les deux à la fois, ça fait une étoile à six branches.
Ouais.
Voilà. En fait, cette pochette, ça se voit pas, mais elle a été conçue géométriquement. C'est extrêmement rigoureux, en fait. C'est-à-dire que tout est placé de façon géométrique. Ça a été calculé selon des règles qui sont. C'est la géométrie sacrée.
Je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'hasard.
Je crois que ça vient de la tradition juive, en fait, entre autres.
Ouais.
Et donc j'avais trouvé ça assez intéressant parce que c'est vraiment un objet qui est très chargé. On voit pas forcément sur le premier abord ce que ça peut représenter, mais c'est quand même pas mal. Alors je lui disais, c'est peut-être un peu trop pour une pochette frontale, parce que je dis, les gens vont pas percuter.
Ouais.
C'est trop, c'est là en plus on revient, donc les gens connaissent pas le nom, connaissent pas le logo, donc c'est peut-être un peu trop abstrait,
ou même un peu trop
indéchiffrable et pas assez direct.
Ouais.
Alors, je dis, il faut que tu me fasses une autre pochette. Et donc elle a fait une autre pochette, celle qui est
celle en noir et blanc qui est la pochette extérieure
avec le gros logo, avec
la typo des Junk,
voilà, avec les serpents, en fait les serpents cryocéphales, c'est-à-dire serpents tête de bélier,
ouais,
qui sont en fait les animaux favoris du grand cornu. pour ceux qui connaissent la tradition celte.
Ouais.
C'est celui qui est dessiné sur le chaudron de Gundestrup, qui est un chaudron en bronze qui a été trouvé donc à Gundestrup, j'imagine en Allemagne ou en Autriche, et qui représente un dieu avec des cornes de cerf en fait.
Ouais.
Voilà. Qui est présent à plusieurs endroits sur la pochette, puisqu'il y a des bois de cerf un peu dans tous les angles.
Tout à fait, sur les quatre angles. Ouais.
Donc, après, sur les serpents, il y a un jeu, il y a le 8 de l'infini, le Lemniscate, en fait. Avec le lien sur le serpent, il y a des éclairs aussi qui sont de l'énergie. Tu as une tête de bélier vivant, une tête de bélier mort. Il y a le ruban d'ADN aussi. Après, il y a des chouettes. On a mis des yeux à la pochette pour les rendre vivants. Ça, c'est plutôt les Japonais qui mettent des yeux sur les objets. Pour les rendre vivants.
Ouais. C'est-à-dire
souvent, dans le tatouage japonais, les tatoueurs finissent par les yeux, en fait.
D'accord. C'est-à-dire le rendre vivant à la fin.
Ils donnent une âme au tatouage.
Voilà. De ce que ça donne.
Voilà. Et c'est la vie. Tu mets la vie, mais dans quelque chose qui est terminé, en fait.
Ah, ok.
Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas dérogé à la règle. C'est-à-dire la carpe, il a mis les yeux à la fin.
D'accord.
Voilà, vraiment au bout du compte. Je sais même pas si percuté consciemment, mais j'ai lu par ailleurs que c'était ça en fait.
D'accord.
Et donc après, bon, il y avait un jeu, tout le lettrage a été composé par Marie aussi. Il y a un renvoi au folk album aussi dans chaque angle, avec des motifs, ça c'est difficile à décrire, qui représente en fait une lame de hache qui est posée sur un disque évidé en, je sais plus ce que c'est comme pierre, une pierre blanche, et ça avait été trouvé dans une tombe celte, pareil.
Ok.
C'est un symbole, entre autres, sûrement de fécondité, en fait, le plus, le moins, ça.
D'accord.
Il y a quelque chose, je te coupe, qui me turlupine. Voilà, oui. Je cherchais le terme exact, je l'ai passé.
Turlupine.
Je l'ai passé. Finalement, les junk, vous avez une musique qui est simple, efficace, on est d'accord, c'est très simple.
Ouais.
Les titres, pour moi, il n'y a rien de plus simple, on est d'accord.
Ouais.
Et pourquoi ce besoin, finalement, on se rend compte que là, tu vois, quand tu nous présentes la pochette, quand on te connaît, quand on connaît la personne avec qui tu as travaillé, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond.
Ouais, ouais.
C'est quoi le lien entre les deux?
Moi, justement, je trouve que je sais pas, peut-être que je m'avance, c'est pas un lien, c'est justement la dichotomie du truc. C'est-à-dire que tu fais une musique rentre dedans, machin, et derrière que tu cales sur un objet visuel plein de signes, plein de références, plein de significations. Ben, je sais pas.
Après, ça peut faire un jeu de piste après aussi. Les gens, ils regardent la pochette, ils se disent bon, ils connaissent pas.
Alors, je repose ma question différemment. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'était un besoin finalement? Pour éviter de faire des comparaisons à la con, on va essayer de faire un truc que tout le monde connaît. Motorhead. On reprend Motorhead. Ouais. Alors peut-être que je connais pas assez, mais peut-être que mon exemple est à chier. On verra. Finalement, t'as souvent des pochettes très simples. Enfin, j'ai 2-3 pochettes en tête. C'est quand même assez simple. Là, il y a quand même quelque chose de plus profond. Tout ça pour dire que finalement, les textes qui ont l'air aussi simples, la musique qui a l'air aussi simple, là je m'embrouille, mais n'est peut-être pas.
Non, mais je vois, il faut pas se fier aux apparences. En fait.
Exactement. Mais donc pourquoi ce besoin? Enfin voilà.
C'est ce que je trouve intéressant dans tout ça, et il y a un certain nombre de gens qui le captent. En fait, si tu veux, c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. T'as le niveau de lecture sur l'énergie brute, tout ça. Il y a les gens qui pensent qu'en fait on fait un style un peu dépassé, qu'on est juste un groupe de mecs et qu'ils font des textes un peu sexistes, etc., etc.
Ouais, comme qui n'ont pas appris anglais en première langue.
Voilà, ou qui font pas l'effort forcément d'essayer de décoder tout ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et à la limite, je me suis rendu compte avec le temps, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens avec qui je peux partager un certain nombre de choses. Donc Marie-Lise, c'est pareil. Bon, elle a vraiment beaucoup chargé la pochette en symbole. Puis moi, j'étais là, j'ai dit ok.
Ouais, t'as validé quand même, quoi.
J'ai validé, ouais, parce que je trouvais ça intéressant. Et puis c'est un domaine sur lequel on arrive vraiment à discuter assez facilement.
Tu bosses avec une artiste, tu lui fais une demande, tu vas pas lui dire ouais mais plus comme ça, tu la laisses bosser.
Mais non, voilà, c'est
ça,
parce que ça, c'est-à-dire que la pochette, c'est sa traduction de l'univers des junk, parce qu'elle le connaît bien aussi.
Elle a écouté l'album avant de faire la.
C'est ça, c'est ça. Je lui ai envoyé.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Le délire que elle ça.
Ben, tu sais, il y a des gens sur le fuck album, je pense, qui pensent que c'est une pochette et un album qui sont sexistes et que le logo du groupe avec le fuck, c'est quelque chose qui a été décidé par des mecs, tu vois, que c'est, etc.
Ouais,
etc.
Que ça, c'est des couillus!
Exactement. Et sauf que là où les gens se plantent, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que tout a été conçu, donc, par Marie-Élise, donc, qui est on va dire plutôt féministe aussi.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est une femme, oui, en effet.
C'est une femme, non, mais tu vois, qui est plutôt branchée, ouais, qui est pas dans les clichés, qui est pas trop dans les clichés de base, tu vois, de rapport masculin-féminin. Et qui avait vraiment compris le fuck album. C'est pas uniquement le fuck c'était aussi un gros doigt d'honneur à beaucoup de choses. Et même si ça a été un peu long pour arriver pareil à le mettre en boîte, cet album, ça avait pris 2 ans aussi.
Ouais. Bon, ça c'est le rythme classique.
Ouais, apparemment.
Espérant
ouais.
que ça s'accélère un peu pour celui-là,
j'espère
le prochain.
J'espère bien. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que en faisant des choses comme ça qui sont chargé de symbolique. Moi, ce que j'aime bien avec cet objet, c'est que le fuck album, il est tout rikiki dans son CD.
Ouais.
Et ça touche les gens, mais pas trop. Voilà. Ouais. Ça, cet album, j'ai des anecdotes très simples. Hein. Là, on a joué à Montauban il y a un mois. Il y a Grand Nico qui, à l'époque, était le président du Son de l'Innocent. Ça faisait 7-8 ans que je l'avais pas vu.
Ouais.
Déjà, il s'est pointé, il avait un t-shirt des Junkyard de l'époque.
Ça fait plaisir.
Avant les logos et tout ça, il m'a dit ouais, je l'ai ressorti et tout. Bon, ouais. Et quand je lui ai filé un album, un souvenir de tout ce qu'il avait fait pour nous à l'époque, il nous a fait jouer plein de fois. Et tu vois les gens, tu vois, ça les touche quoi, et moi ça me renverse en retour, ça me fout un feedback pas possible. Je me dis ouais, c'est pour ça qu'en fait, c'est là où ça devient intéressant.
Yes.
C'est là où c'est, t'as quelque chose à dire à François? Ex.
Ils se font des blagues.
Il y a une conversation parallèle en c'est fait ça, dans ouais. le studio, mais muette. Hein. Et c'est aussi l'idée, c'est que pour moi, ce groupe, c'est vraiment beaucoup de choses à des niveaux qui sont même extrêmement profonds en fait. Ça va pas l'air, hein, parce que voilà, les Junk, ça reste quand même un groupe de ferraillage de hard rock. Classique,
ouais.
Mais c'est tout l'arrière-plan, moi, que je trouve intéressant, parce que il y a des gens qui le comprennent. Quand tu as des gens qui te disent ah mais là l'énergie que vous avez, alors après ça c'est pas dédié aux scientifiques pragmatiques, ce que je veux dire, l'énergie que vous avez, c'est tellurique et tout ça. Moi je comprends ce genre de choses parce ouais. que j'avais lu une fois dans un fanzine un mec qui disait d'un groupe de doom, mais moi quand je fais du Larsen, j'invoque des esprits. Moi j'avais trouvé ça intéressant comme image. Et d'autre part, des choses que j'ai pu lire par ailleurs, où quand le rock est né au début des années 60, fin 50, début 60, il y a des ésotéristes qui disaient que c'était le nouveau rite païen.
Ouais.
C'était du néo-paganisme, en fait une manifestation de néo-paganisme. Bon, moi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'intéressent toujours. Et moi, j'aime bien mettre du sens,
okay.
plusieurs couches de sens dans ce que je fais. Dans la musique, il y en a, mais il faut les chercher, il faut se donner la peine de les chercher. Il y a un mec d'un fanzine qui s'appelle Walla Bierzine, qui a fait une chronique de l'album un peu à la Lester Bangs. Ce qui m'a beaucoup plu, parce que j'aime beaucoup Lester Bangs, qui est une chronique de rock américaine dont la plupart des textes ont été réédités chez Tristram à Hoche.
Ouais.
Voilà, et c'est, je conseille vraiment, c'est-à-dire aux États-Unis, tu as Hunter Thompson, Lester Banks, il y en a un ou deux autres,
ouais.
dans le genre complètement déjanté.
C'est les allumés des 70s, quoi.
Voilà, c'est les allumés des il est un peu plus. Ça fait longtemps qu'il est mort, il était plus jeune qu'Hunter Thompson.
D'accord.
Lui, c'était plutôt les années 70. Mais c'est un chroniqueur de rock très éthique en fait, quelque part. C'est ouais. quelqu'un qui a jeté les bases d'une certaine philosophie du rock, punk en particulier, puisqu'il a vécu au moins une tournée des Clash. Il est allé interviewer Marley sur place. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, donc ça c'est pour Lester Banks. Bon, je pourrais digresser encore un petit peu, vous avez l'habitude. Et l'idée c'était que cette chronique que le gars m'a fait de ce fanzine, la Walla Bierzine,
ouais.
il a fait cette chronique-là, il a capté qu'en fait la plupart des chansons que les gens considèrent sexiste, en fait, c'était des chansons d'amour. C'est très con, mais c'est l'idée, en fait.
D'accord.
C'est l'idée.
Et on parle, on peut écouter un morceau ou...
Ben non, parce qu'on va s'écouter.
Après, c'est le full album.
En fait.
Ah yes, d'accord.
On discute un petit peu tranquille.
Full album dans full boxon.
C'est ça. On va s'écouter l'album en lui-même. D'ailleurs, tu peux nous parler. Il y a combien de morceaux?
Alors, il y a 8 titres.
Ouais.
Parce que c'est un format que j'aime bien. Parce que c'est le format. Moi, j'aime pas les albums où il y a 15 titres, en fait. Déjà, me le reproche. Je me dis, vos albums sont trop courts. Mais pour moi, un album, c'est maximum 40 minutes de musique, quoi. C'est le format.
C'est
le
set, quoi.
Ouais, c'est le format de deux faces. Tu tournes la face. Et tu as un single au début de chaque face. La balade.
Ok, t'as construit ça à l'ancienne, quoi.
Ouais, et encore sur la gravure, je me suis fait avoir. On s'est mal compris avec la boîte qui a fait la gravure, et il y a pas assez d'espace entre les morceaux. Moi, je voulais vraiment entre certains morceaux, je voulais 5 secondes,
ouais.
comme sur les vieux disques, pour que tu puisses sortir
d'un morceau avant de rentrer dans l'autre.
Voilà, donc ça, ce sera un paramètre qui sera vraiment réintégré dans le prochain, d'accord. parce que c'était la première fois que je faisais du vinyle, donc je suis parti un peu dans l'inconnu.
Peut-être tu peux nous mettre en exergue un ou deux morceaux, un de chaque face, un truc qui t'a, enfin, soit où il y a eu une histoire particulière à la création, en concert. concert, des trucs que t'aimes bien, le truc que tu préfères, je sais pas. J'imagine que tu les aimes tous, bien sûr, mais.
Il y a vraiment deux titres que j'aime, que j'aime beaucoup sur, sur la face A.
C'est que t'aimes écouter et jouer ou que t'aimes plus écouter que jouer?
Que j'aime les deux, en fait.
Ouais. Les deux.
Voilà. Mais, si, c'est vraiment deux titres que j'aime vraiment jouer. Il y a The Witch Queen and the Pinball Lizard. Ouais. Et le morceau qui est après, qui s'appelle Serial Liquor Blues. Qui en plus, celui-là, l'anecdote, c'est que quand tu bosses en studio, tu as toujours un clic de référence. Hein.
Ouais.
Et ce morceau-là, en fait, on ne pouvait pas le cliquer intégralement. C'est-à-dire, il est en deux parties. Voire trois, et on pouvait cliquer que la première partie, parce que si on essayait de tout cliquer sur la première partie, ça marchait pas. Si on cliquait tout sur la deuxième partie, ça marchait pas.
Peut-être que tu peux expliquer aux auditeurs, cliquer, ça veut dire quoi, cliquer?
C'est, pardon, oui, excusez-moi pour les non-musiciens, c'est un tempo de référence qui tape dans l'oreille du batteur, tac, 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 et tu construis, c'est pour avoir de la régularité et de l'efficacité aussi. Voilà, alors ça des fois ça tue un peu la spontanéité.
Ouais.
Mais d'un autre côté, ça te donne beaucoup plus d'assises et de puissance sur certains styles. Le métal est extrêmement cliqué au niveau temporel, c'est très précis.
Il faut un truc truc régulier quoi.
Et nous on est à cheval en fait, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques qui sont pour avoir de la précision, mais on les utilise pas forcément pour être hyper précis, mais par contre pour toujours garder une constance dans le mouvement plutôt que dans la précision pure. Okay.
Et donc donc ces deux morceaux
sont sur
la face A.
C'est le 3 et le 4 de la face A, ouais. Voilà, parce qu'après bon, la plupart des autres sont vraiment intéressants aussi à leur manière, mais c'est vraiment mes deux préférés.
D'accord. Bah écoute, moi je te propose que déjà tu nous donnes l'endroit où on peut choper ce magnifique objet. Est-ce qu'on peut le trouver je sais pas, dans les disquaires, dans le coin, sur internet?
Alors je l'ai pas mis en distribution sur Roche, puisque étant à Roche, bon, je suis relativement facile à trouver.
Donc d'ailleurs s'il y a des auditeurs qui souhaitent acquérir ce vinyle, ils ont qu'à nous contacter sur fullboxon@gasconierfm.com,
voilà,
ou sur la page Facebook des Junk,
ouais, ou sur ma page perso,
ou sur la page perso de Mathieu
aussi, voilà. Donc je suis assez facile à trouver.
Voilà, assez facile à trouver si vous voulez vous procurer cet album.
Voilà.
Et ensuite, on mettra les liens de toute façon.
Ouais, on mettra les liens après la diffusion.
Sinon, pour ceux qui habitent un peu loin, qui veulent que je leur envoie, soit ils passent directement, soit il y a des gens qui passent par le Bandcamp aussi.
Okay.
Mais bon, après Bandcamp, on leur laisse quand même une grosse marge, donc c'est un peu chiant.
Ouais, autant passer en direct avec toi.
Ouais, direct, c'est quand même plus cool. Et sinon, après, à Toulouse, on peut le trouver au laboratoire, chez Vichou Circle, et j'en oublie un qui est JB. Disque, ouais, je lui en avais filé, mais je sais pas, bon, il y avait une histoire avec.
Allez à Vichou, comme ça on est sûr que ça y sera.
Chez Vichou, c'est impeccable, là, c'est clair qu'on peut le trouver.
Bon, bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'écoute donc ce full album des Junkyard Birds, Free Willing Free Will. On revient après pour teaser un peu la nouvelle année de Full Boxon en compagnie des acolytes et parler un peu de ce qu'on va vous proposer bientôt. Voilà, on écoute ça.
Yes.
Pressure. chaise longue en l'air. On a subway train. Chaise à point dans le windshield. On est out on mountain. And I'm feeling all is on. From the middle of nowhere. I want to step on my shield. I get my mother all so clear.
Just for one night. I love you till the edge of time. Thinking about you every day. Looking to my broken heart. What you see is what you get. I love you till the edge of time. Thinking about you every day. Looking to my broken heart. What you see is what you get. We'll be right back.
C'était où Free Willing Free Will, donc le dernier album de Junkyard Bird.
C'était où
Free Willing pour cette première émission de 2014 en janvier. Donc on va vous présenter succinctement un peu ce qu'on va vous faire pour les prochaines émissions. Moi je vais aller très vite pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un petit review sur Kickback, donc un groupe de hardcore parisien qui vient de splitter là, juste il y a un mois. Voilà, ensuite je sais pas Alex, tu voulais peut-être nous présenter un peu ce que tu allais nous présenter dans les présentations que tu vas présenter.
Alors en présentation,
présentement,
je pense que je vais faire une petite chronique sur un DJ français qui s'appelle Ron, j'en avais parlé la dernière fois. J'avais bien envie de parler aussi d'un groupe que j'aime beaucoup, australien, qui s'appelle Midnight Juggernaut. Et apparemment, je vais faire un peu autre chose aussi que d'électro,
ouais.
Parce que j'ai eu un coup de cœur un peu tardif, mais bon, mieux vaut tard que jamais.
C'est ça.
Je pense que je vais parler la prochaine fois. Je vais parler un peu de Daniel Dark parce que j'ai acheté son dernier album, son album posthume, qui m'a beaucoup touché. Donc j'ai quand même envie d'en parler un peu.
Voilà. Ok, très bien. Xav, toi, t'as prévu des trucs déjà?
Ouais, divers trucs, certainement du ciné. Peut-être quelques films qui sont sortis l'année dernière, que certains ont vu ou pas. De toute façon, on va peut-être aussi mettre en place une nouvelle rubrique qui s'appellera peut-être la minute, peut-être, c'est quasiment sûr, la minute du spoil,
ouais.
Où on spoilera ou non quelques films. Voilà.
D'ailleurs, on pourrait commencer aujourd'hui, non? On n'a pas.
Non, gardons les bonnes choses pour la prochaine émission.
Ah, c'est dommage.
Par contre, il y a un truc, Xav, que tu devais faire, enfin, que tu avais dit que tu aimerais bien faire et que tu n'as pas fait, c'est une chronique de jeux vidéo, tu nous as pas encore fait une.
Ouais, on va voir, je vais certainement revenir sur les jeux de l'année dernière.
Voilà,
comme ça on fera un petit melting pot en attendant un peu les nouveaux jeux de 2014.
Ok, très bien. Et toi, Matt, comme on a teasé déjà sur les deux dernières émissions, qu'est-ce que tu vas nous préparer?
Eh bien, je vais commencer à développer mon anthologie du death metal suédois.
D'accord, sous quel angle?
On va d'abord commencer par le heavy metal traditionnel suédois. Genre, peut-être on passera même un morceau de Europe.
Ah!
Ça c'était l'état de la scène existant avant l'éclosion de death metal. Voilà donc avec des groupes d'époque. Ensuite, ouais. On passera petit à petit sur les premières démos à partir de 86-87. Ex, c'est bon là. S'il te plaît. Et après, on développera avec les premières démos, puis le moment où ça commence à se construire, où ça se répand en Suède, et puis où ça commence à
déborder sur le reste de l'Europe.
Vraiment. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout, au moment où on rencontre le black metal, en
D'accord.
fait, qui pour l'instant est un domaine que je ne connais pas vraiment, mais qui est quand même partie
qui est complètement inféodée au death metal.
Au death metal suédois, ouais, c'est ça.
C'est le petit rejeton sulfureux du
et infernal death... et beaucoup plus fashion, il faut le dire.
C'est ça.
Parce que le death metal, moi, je me rappelle quand on était jeune, c'est qu'on écoutait du speed metal et ce genre de truc. C'était un peu la new look metal attitude. C'était veste en jean pourri, un demi patch, les cheveux gras et puis.
Tu
rien
sais
à
que
foutre,
sur des sites, il y a des vestes à patch déjà patchées qui sont.
Non mais c'est dramatique, c'est dramatique. Non mais c'est dramatique parce
j'ai
que.
J'ai vu ça avant-hier, je crois, j'étais pété.
Enfin, c'est là où les gens se trompent. On pourra jamais revenir dans les années 80. Les années 80, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'était ce que c'était. Mais à cette époque-là, tu vois des métalleux, t'as l'impression qu'ils sont sortis d'un bloc de formol. Je trouve ça un peu bizarre.
Ouais. Ok. Bon, mais voilà, c'était à peu près le programme qu'on va vous présenter.
Ouais, et puis plein de rencontres aussi, je pense. On va essayer d'aller à la rencontre de d'artistes qui jouent sur Roche ou dans les
Ouais, Androns, des artistes, des musiciens, des graphistes, voilà.
Des créateurs.
On va essayer aussi, de continuer à faire nos interviews de personnes un peu emblématiques ou atypiques ou qui viennent ici pour l'occasion de les gens qu'on arrive à connaître par nos réseaux respectifs. C'est ce qu'on essaie de vous proposer. Voilà, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Ça fait un petit moment qu'on est tous les quatre à faire cette émission. Moi, je tiens à vous dire bonne année. C'était bien cool cette année passée. J'espère que la prochaine sera aussi bien. On va sûrement avec Xav partir au Hellfest encore cette année. Je pense que Mathieu va peut-être aller au Resurrection Fest de Albi.
Non, sur Extreme Fest.
Extreme Fest d'Albi. Peut-être qu'on va essayer d'y aller nous aussi faire des petits coverages. Continuer à essayer de faire marcher les réseaux qu'on connaît, les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des souhaits, des envies, des désirs. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez un petit truc à rajouter pour clôturer cette émission?
Bah merci à toi de
bah merci
de
hein.
Et bah, écoute, non mais c'est merci là. Merci à vous d'être là, ça fait plaisir et qu'on continue comme ça très longtemps.
Que 2014 soit une bonne année et puis plein de conneries quoi.
Voilà.
Après 2012, l'année de la loose, 2013, l'année de la main.
De la baise.
Ouais, c'est ça. Et 2014, l'année de la.
De la cirrhose.
Ouais! Yeah!
Ben voilà.
Ben écoutez, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. On écoute peut-être un dernier morceau, un truc à proposer, les gars. Allez, Xav, tu proposes un dernier morceau pour cette émission?
Ah ouais, non, mais je sais pas. Moi, j'ai pas. Pas un truc qui me vient, là. Un truc pour la première. Pour la nouvelle année. T'as un truc, toi, Rex? Ah,
j'ai des trucs, mais bon.
Moi, j'en ai plein aussi, mais voilà.
Vas-y, Xav, réfléchis, un morceau.
Y a pas de truc qui me vient. Là,
T'as aucun morceau dans la tête?
Non, là, sur.
Bon, mais voilà, donc on fait une émission de radio sur la musique. Demande un morceau
croque
qui
vacances,
vient.
Croque vacances.
Ok, alors moi je vais proposer un morceau. Ça, c'est le morceau de Kickback qui s'appelle This is the End. Ciao.
Allez, ciao.
vous emmerde et je rentre à ma maison.